André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais. Sixième cassette, première face, page 140. Tout se passa selon les plans de M. Drapeur. Trois jours plus tard, Hélène était transportée à bord. Gaspard se vit octroyer une petite cabine dans l'entrepont. Il continua à aider Maître Sedagne à la cuisine, afin qu'il fût bien entendu qu'il gardait un rôle subalterne, mais on lui donna moins de travail et on lui permit de rendre visite à Hélène pendant quelques minutes chaque jour. Hélène demeurait couchée dans sa cabine. Si elle était en proie à une grande faiblesse, ses yeux avaient retrouvé leur flamme. La gouvernante se tenait toujours dans la cabine et prêtait la plus grande attention aux paroles échangées lorsque Gaspard venait s'entretenir avec Hélène. « Le médecin prétend que je ne peux pas recevoir de longues visites, » disait Hélène. « Ce n'est pas vrai. Pourquoi ne puis-je te voir que quelques minutes ?»«
Il faut accepter cela, » disait Gaspard.
Hélène considérait Gaspard avec méfiance. « Je te trouve changé, » disait-elle. « Tu n'es plus avec moi comme auparavant. Tu ne crois plus que je reverrai mon pays ?»«
Je crois que tu le reverras, » disait Gaspard.
Elle le regardait et elle réfléchissait. « Bien sûr, tu t'es lancé dans une aventure et maintenant tu le regrettes. Tu te demandes si je ne me fais pas des idées et si c'est vrai tout ce que je crois sur mon pays et sur ma famille. »
« Je crois vraiment ce que tu m'as dit, » répondait Gaspard.
Hélène, avec la patience mélancolique des malades, s'amusait à entortiller autour de ses doigts une chaînette d'argent qui lui servait de bracelet. C'était l'un de ces bijoux trouvés par M. Drapeur dans le paquet donné par la vieille femme de Stone. « M. Drapeur m'a raconté les circonstances dans lesquelles il t'a adopté, » disait Gaspard. « Il m'a raconté cela à moi aussi, » répondait Hélène. « Ce bijou appartenait à Maman Jenny. Rien ne prouve que Maman Jenny est morte. »«
Rien ne le prouve, » répétait Gaspard.
Un autre jour, Hélène déclara à Gaspard qu'elle ne renoncerait jamais à chercher. « Rien ne compte pour moi que Maman Jenny !» Lorsqu'Hélène parlait à mi-voix, pour que la gouvernante n'entendît pas, la dame priait aussitôt Gaspard de sortir, prétendant qu'Hélène se fatiguait. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demandait Gaspard le lendemain. « C'est possible de retrouver d'abord ce pays, » disait Hélène. « Il a l'air fantastique, mais comme il existe, on le découvrira forcément. »«
Il n'y a pas un lieu au monde, » murmurait Gaspard.
« Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi veux-tu me décourager maintenant ?»«
Je ferai ce que tu voudras, » disait Gaspard, « mais je ne suis capable de rien. »
Il voulait éviter d'engager l'avenir et de faire à Hélène des promesses trompeuses malgré les recommandations de M. Drapeur. Il était persuadé que, de toute façon, il ne pouvait rien pour Hélène. Cependant, le Beaumont, le bateau, poursuivait son voyage. Gaspard trouvait de longs moments pour contempler la mer. Sans cesse, la mer changeait. Dans les premiers jours, elle resta profondément bleue et calme. Elle devint bientôt plus mouvementée et peu à peu, le vert s'y mêla au bleu. On entra dans la Manche. Hélène put quitter son lit et venir sur le pont. C'est là qu'elle eut un dernier entretien avec Gaspard, comme la traversée touchait à sa fin. Ils étaient appuyés sur le bastingage et regardaient la côte d'Angleterre qui s'approchait. Hélène dit à Gaspard, « Nous arriverons demain. Jure-moi que tu chercheras mon pays. Jure-moi que tu ne me trahiras pas. »«
Je dois rentrer à Lominval, » dit Gaspard.
Hélène regarda Gaspard. Il lut dans ses yeux une grande tristesse et du mépris. Il ajouta,
« Tu sais que je ne t'oublierai pas et que je ferai tout ce que je pourrai pour toi. »
« Jure-moi, » dit Hélène.
« Je te jure que je chercherai ton pays. »
Monsieur Drapeur survint à ce moment.
il remercia Gaspard de l'amitié qu'il avait pour Hélène. Gaspard avait prononcé exactement les paroles que M. Draper voulait, mais il y croyait, tandis que l'homme n'y croyait pas. Pendant toute la traversée, Parpoil était resté invisible, comme en disgrâce. Il ne devait pas tarder à se manifester. Le yacht entra un matin dans l'un des grands bassins du port d'Anvers. On était au début du mois d'août, le 5 août, je crois. Dès que le bateau fut à quai, M. Draper et Hélène descendirent. Une voiture les emmena. Gaspard attendit pendant des heures, enfermé dans le salon. Ce fut Parpoil qui vint le trouver.
« Eh bien, jeune homme, lui dit-il, notre croisière est terminée. Il me reste à remplir un dernier devoir. Il me faut vous reconduire à la gare et vous remettre un billet jusqu'à Revin. Mademoiselle Berlicot vous attendra à Bruxelles. Nous l'avons prévenue par dépêche. »
Gaspard fut étonné par ce dénouement. Il n'avait rien à répondre. Il comprenait qu'on avait cherché à tromper Hélène et à le tromper pour les ramener l'un et l'autre à la routine ordinaire. On ne leur avait même pas permis de se dire au revoir.
« Monsieur Draper vous invitera peut-être un jour à rendre visite à Hélène, » ajouta M. Parpoil avec ironie. « Si toutefois vous êtes raisonnable, si toutefois vous voulez bien croire qu'elle a rêvé et que personne au monde ne pourra jamais découvrir ce damné pays qu'elle s'est mise en tête. »
Gaspard garda le silence. Il descendit sur le quai avec Parpoil. Un taxi vint les prendre. Ils arrivaient à la gare centrale un quart d'heure plus tard. Chapitre 9. Au pays des châteaux. Gaspard suivit Parpoil dans le hall. Parpoil prit un billet pour Gaspard. Ils allèrent ensuite au buffet. L'homme fit servir à Gaspard un repas froid et lui-même s'octroya divers alcools. À 7 heures, Gaspard montait dans le train et quand il fut placé au fond du compartiment, dans l'angle opposé au couloir, son garde du corps attendit sur le quai le départ du train. Gaspard se trouvait réduit à la plus complète impuissance. Il regardait avec indifférence les boiseries du compartiment. C'était un vieux wagon, aux cloisons repeintes et aux portières étroites. Une vieille dame était assise sur l'autre banquette, parmi d'autres voyageurs. Elle avait échangé un signe rapide avec Parpoil. Gaspard crut comprendre que cette duègne appartenait à la maison de M. Draper. Elle devait exercer sur le garçon une surveillance discrète. Il n'y avait aucun moyen d'échapper. Gaspard attendait impatiemment que le train démarre, comme si cela devait le délivrer de tout regret. Il pensait qu'il ne reverrait plus jamais Hélène. Toute cette équipée lui semblait en effet une folie. S'il n'y avait pas eu ce cheval Pie, ni ce coiffeur, ni Théodule Rosidor. Mais le cheval Pie était la cause de toute l'histoire. Gaspard revoyait le cheval, ses yeux ardents, sa crinière emmêlée. Il revoyait aussi les paysages d'hiver de la forêt, l'orage, les splendeurs du ciel d'orage. Était-il possible que cette aventure qu'il avait menée jusqu'aux Bermudes se terminât sans espoir et que l'obstination d'Hélène n'eût aucun sens? Qu'il n'y eut rien à rechercher ni à trouver. Maman Génie, le grand pays, Gaspard avait juré. Le train démarra avec une sournoise lenteur. Dans les circonstances décisives, nous ne voyons souvent que des détails insignifiants. Gaspard aperçut d'abord, par la portière opposée, le visage de Parpoil et sa barbe rousse. Parpoil s'était placé à une certaine distance pour voir Gaspard une dernière fois. Il lui fit un signe d'adieu ironique, puis il tourna le dos. Gaspard baissa les yeux. Il aperçut tout près de sa main le verrou de cuivre de la portière. À cette époque, il y avait des wagons avec les compartiments. Chaque compartiment avait sa portière. Près de ce verrou, la portière d'émail, avec la phrase habituelle
qui recommande aux enfants de ne pas jouer avec la serrure. Gaspard fut saisi par un élan soudain. Après avoir regardé si aucun obstacle l'empêchait, il ouvrit la portière et sauta à contre-voie. Le train n'avait pas fait 100 mètres et la vitesse était faible. Gaspard retomba sur ses pieds avec la plus grande facilité. Il entendit les cris de la duègne, mais le train accélérait et elle dut se contenter de refermer la portière. Elle ne pouvait pas tirer la sonnette d'alarme pour avertir le chef de train qu'un garçon était descendu à contre-voie. Gaspard traversa un quai, puis contourna un train qui stationnait. Il se dirigea lentement vers la sortie. Il montra son billet à l'employé et lui dit qu'il venait de manquer son train. L'employé lui répondit qu'il n'en aurait pas d'autre avant le lendemain matin, et Gaspard sortit de la gare. Il n'avait pas d'argent. Sa seule ressource était de se mettre à la recherche de Niklas. Il déchira son billet et en jeta les débris sur le trottoir. La nuit tomba bientôt. Gaspard retrouva Niklas sans difficulté, malgré l'heure tardive. Ils étaient tous sur leur bateau, ancrés devant la plage Sainte-Anne. Ludovic et Jérôme jouaient aux osselets sur le pont, à la lumière d'une lampe tempête. Niklas réparait le cornet à piston de Jérôme. Gaspard héla Niklas et cria « C'est moi, Gaspard !» Tous se dressèrent soudain et Jérôme se mit à gémir que c'était sûrement le fantôme de Gaspard. Ludovic rabroua Jérôme, mais il ne semblait pas moins effrayé. Niklas alla chercher une lampe électrique dans la cabine. Il projeta le faisceau lumineux dans la direction de Gaspard.
« Je ne le vois pas bien, dit Niklas, mais il n'a pas l'air d'un fantôme. »
Il descendit aussitôt dans le canot et rama vers le rivage. Il eut vite reconnu Gaspard et l'embarqua. Lorsque Gaspard fut sur le pont du bateau, Ludovic et Jérôme le regardèrent longuement, puis l'embrassèrent.
« On te croyait au fond de l'Escaut, dit Niklas. Comment t'es-tu débrouillé ? Ludovic me soutenait que tu n'aurais pas pu nager jusqu'au rivage. »«
Je suis monté sur le yacht, dit Gaspard, et je suis allé aux Bermudes. »
Ludovic et Jérôme posèrent beaucoup de questions. Niklas écouta en silence. Enfin, il dit à Gaspard,
tu aurais dû rester dans le train et retourner à Lominval.
Je ne veux pas quitter Anvers, dit Gaspard. Hélène est à Anvers. Ce
n'est pas juste non plus d'abandonner ta tante qui t'a élevé et de la laisser dans l'étrange.
J'ai ma famille aussi qui court les marchés et de toute façon j'en suis séparé, comme Hélène est séparée des siens.
Niklas haussa les épaules. « Elle ne comprend pas bien ce que tu veux, puisqu'il n'y a rien à faire d'aucune façon. Mais as-tu mangé ce soir ?»«
J'ai mangé au buffet de la gare. »«
Eh bien, allons-nous coucher. Nous verrons demain ce qu'il faut faire de toi, dit Niklas. »
Les affaires de Niklas ne marchaient pas très bien cet été. La mode aurait voulu que lui et ses fils revêtissent des costumes flamboyants pour exécuter leurs concerts, mais cela leur déplaisait et on les considérait comme des mendiants, malgré le talent qu'ils avaient. Niklas n'était pas toutefois sans ressources. Il gardait quelques économies, ayant toujours mené avec ses enfants la vie la plus simple. En cette saison peu productive, ils s'étaient souvent livrés à la pêche. Gaspard apprit cette situation le lendemain. Il déclara qu'il allait chercher du travail de son côté, mais Niklas le pria de ne rien faire. Il possédait une vieille voiture à cheval, un vieux break garé chez un ami, et il projetait d'acheter un cheval. Avec cet équipage, il pourrait parcourir les campagnes où il jouerait et vendrait des chansons. Il avait fait des démarches et s'était procuré les papiers nécessaires pour réaliser ce projet.
Ainsi la vie change selon les caprices du destin, concluait Niklas. Mais je vous embarrasserai de toute façon, observa Gaspard.
Ludovic ne manqua pas de lui chercher querelle à ce sujet. Niklas intervint.
Gaspard peut apprendre à chanter et il distribuera les chansons pendant que nous jouerons. Nous pourrons gagner les environs de la frontière et il rentrera à l'homme inval quand il lui plaira.
J'aime mieux vous quitter tout de suite, dit Gaspard.
Je sais que c'est à peu près impossible, mais je veux chercher le pays d'Hélène.
Nous le chercherons ensemble, dit Niklas.
Gaspard fut étonné d'entendre ces mots. Il regarda longuement Niklas.
Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, dit celui-ci, mais puisque tu parles de nous quitter, je peux t'avouer que j'ai certaines idées sur le pays d'Hélène.
Gaspard se trouvait sans voix. Jérôme et Ludovic interrogèrent leur père du regard. Ils hésitaient à poser des questions. Les uns et les autres, malgré toute leur confiance, n'osaient pas croire que ce pays pût exister.
Le grand pays, murmura Niklas, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne puis rien affirmer en ce moment. Il faut nous contenter d'hypothèses. Je connais les lieux, cependant, où il est possible de voir dans un même paysage certaines espèces de palmiers, des bouleaux, des chênes et peut-être la mer. Il faut tenir compte aussi des illusions d'une enfant qui était en proie à une longue maladie.
Quelles hypothèses ? Lança Ludovic.
Il y en a deux qui me semblent raisonnables, répondit Niklas.
Niklas se tut. Ludovic et Jérôme firent signe à Gaspard qu'il était tout à fait inutile de presser leur père. Celui-ci se laisserait plutôt fendre le crâne que de révéler une pensée qu'il voulait garder secrète. Gaspard se mordit les lèvres.
Sois patient, dit Niklas. J'ai peut-être grand tort d'encourager ton désir d'aider Hélène. Mais il se passe quelquefois des choses étranges. Tu es venu jusqu'à Anvers grâce à un cheval pie qui t'a emporté d'abord dans la forêt. Un fait si extraordinaire nous enseigne peut-être qu'il faut s'attendre à tout.
C'est ce que j'ai pensé l'autre jour, avant de sauter du train. Mais dites-moi, s'écria Gaspard.
Que je te dise, tu seras déçu. Mes premières idées sur ce pays, les voici. En Normandie, tu trouveras des espèces de palmiers, non loin de la mer, dans certaines propriétés, et des bois de bouleaux et des pommiers. Mais les palmiers ne sont jamais exposés directement au vent de la mer. Par ailleurs, dans notre pays, il y a des châtelains qui, pendant l'été, ornent les alentours de leur demeure avec des palmiers en caisse qu'on a gardés dans des serres, dans des orangeries, pendant la mauvaise saison. Des palmiers, des bouleaux, des chênes, une vaste pièce d'eau. Voilà qui peut faire une image inoubliable pour un enfant.
Gaspard ne fut nullement déçu. Ludovic prétendit qu'il fallait d'abord chercher du côté des châteaux. C'était sûr que si l'on voyageait, on finirait par apprendre quel châtelain possède des serres, des orangeries assez importantes pour constituer un décor de palmiers, et l'on pourrait alors s'informer de moments génies.
Il y a aussi cette terre noire, observa Gaspard, et Hélène croit que Maman Génie était pauvre.
Nous en reparlerons plus tard, dit Niklas.
Je n'aime pas les aventures, dit Jérôme.
Niklas lança une bourrade à Ludovic qui frémissait de colère. Il annonça qu'il allait ce jour même se mettre en quête d'un vieux cheval et préparer le départ. Les garçons savaient qu'il était heureux à l'idée de courir les routes. Un vieil homme aime étudier l'univers plus que quiconque, et si l'on n'aboutissait à rien dans le négoce musical, on aurait toujours fait un beau voyage. Quelques jours passèrent en préparatifs. Niklas mena d'abord son bateau dans un bassin au milieu d'un fouillis de péniches, à un endroit où dormaient quelques rafios abandonnés. Il remit en état son break, sa voiture à cheval, et il acheta des piles de chansons. Le soir, il les faisait répéter à Ludovic et à Jérôme, qui les jouaient avec beaucoup d'aisance. Gaspard chanta. Niklas lui enseigna comment il fallait faire sortir le chant de la poitrine en gardant sa voix ordinaire. Beau soir, beau projet. Le plus difficile fut de trouver le cheval. Niklas dut aller jusqu'à Ranst, R-A-N-S-T. Enfin, un après-midi, il revint au quai avec le break attelé à une jument osseuse qui avait des sabots énormes et des jambes grêles. On transporta du bateau sur la voiture, les effets, les objets ménagers et les matelas. Cette voiture, couverte d'une bâche, avait des dimensions assez vastes. « Nous irons à pied la plupart du temps, » dit Niklas, « car il faut ménager le cheval. » Ils partirent le soir même à la nuit tombée. Niklas alluma une lanterne sur la gauche du break et l'on suivit d'abord les docks. Il n'était pas question de passer sous le tunnel de l'Escaut, réservé aux automobiles, et l'on traversa toute la ville en suivant les grandes avenues pour gagner la route de Malines, M-A-L-I-N-E-S, une autre ville de Belgique. On arriva dans la campagne vers minuit. Il y avait quelques nuages dans le ciel et l'on ne distinguait pas très bien les alentours, mais on sentait l'odeur des blés et des taillis.
« Voilà qui nous change, » disait Niklas. « Nous sommes faits pour changer toujours. Et toi, Gaspard, nous te reconduirons à Lominval dès que tu le voudras. »«
Vous savez bien, » dit Gaspard. Que faisait Hélène à cette heure ? Lui avait-on dit que Gaspard l'avait abandonnée et qu'il était persuadé qu'elle entretenait des rêves insensés ? Comment la rejoindrait-il ? S'il obtenait quelques renseignements sur son pays, sur sa famille ? Il avait le temps d'y songer. Pour l'heure, on marchait sur une route où les autos devenaient de plus en plus rares et l'on entendait les grenouilles coasser dans les étangs. Ils s'arrêtèrent vers le matin au fond d'un chemin creux et dormirent 2 ou 3 heures. Puis ils poursuivirent leur route. On arriva à Malines vers la fin de l'après-midi. Le cheval fut dételé, la voiture laissée sur un terrain réservé aux nomades.
« La résistance de ce cheval m'étonne, » disait Niklas.
Ils allèrent visiter la ville. Niklas n'avait pas l'intention de donner des séances musicales avant d'arriver dans la vallée de la Meuse, au sud de Namur. Il avait parcouru jadis les villages de cette région et il les jugeait les plus propices aux chansonniers. En même temps, il serait possible de s'informer de moments de génie si l'on admettait que le pays dont rêvait Hélène, c'était simplement le parc d'un château, car de nombreux châteaux s'élèvent dans le pays de la Meuse.
« Voici que je reviens sur mes pas, » se plaignait Gaspard. « Tu ne connais pas le monde. » répondait paisiblement Niklas. « Nous allons monter sur le beffroi et je t'expliquerai. »
Ils arrivèrent sur la place où se dressait la tour de la cathédrale. Cette tour avait l'énormité d'un cauchemar, mais à mesure que les regards la suivaient dans sa montée vers le ciel, on était égaré par une beauté qui n'appartenait plus à la terre. La place était presque déserte à cette heure. Seulement quelques touristes attablés dans les cafés ou rôdant devant les magasins de cartes postales. Niklas s'arrêta avec les garçons au milieu de la place, comme s'il voulait leur donner quelques renseignements. Mais il garda le silence, et on se demanda ce qu'il voulait. Alors, on entendit le carillon de la tour qui se mettait à chanter. Comme des voix nombreuses, perdues dans l'air, et inhumainement claires et pures.
« Vous ne saviez pas que cela existait, » dit Niklas. « Cela existe. Il n'y a pas que des aventures et des ennuis ici, Gaspard, mon fils. On entend aussi des chansons dans le ciel. »
Gaspard dit, « Et à quoi cela nous avance-t-il ?
Il faut apprendre à écouter, répondit Nicolas, même des choses inutiles. Il faut apprendre à voir aussi. Venez sur la tour.
Ils entrèrent dans la cathédrale, conduits par le sacristain, et ils prirent l'escalier du beffroi. Quand ils furent en haut, Maline se découvrit à leurs pieds, enserrée et parcourue par les bras de la petite rivière, la Dyle, D-Y-L-E.
Regardez surtout la banlieue, et ce lac là-bas, et les villages plus loin. Si tu veux découvrir ce que tu cherches, Gaspard, tu dois tâcher de lire les signes qu'il y a dans les choses. Observe ces jardins, ces parcs, avec des massifs de fleurs, les carrefours des chemins. Peu de personnes les connaissent et ont l'occasion d'en parler. Le pays d'Hélène t'apparaîtra peut-être dans un de ces lieux inconnus dont il y a des milliers par nos contrées.
Comment me débrouiller au milieu de tout cela et par où commencer, objectait Gaspard.
Un indice en amène un autre, dit Nicolas. La terre est immense, mais il y a des liens entre les choses.
Les conseils de Nicolas, Gaspard n'était pas prêt de les suivre, bien qu'il fût considérablement étonné, ainsi que Ludovic et Jérôme, par la richesse de la cité et des campagnes qui se déroulaient à leurs pieds. Il avait bien trop d'impatience et devait s'attendre à de nouvelles péripéties. Pendant les 2 semaines qui suivirent, la petite troupe gagna les rives de la Meuse et en remonta le cours en suivant le train de leur jument, qui pouvait marcher pendant des heures de son pas tranquille malgré son apparence minable. Ils traversèrent des villes, des villages, des bois, montèrent et redescendirent des collines couvertes de chaumes et de betteraves. Le grincement des essieux du break se mêlait au chant des sauterelles. Ce ne fut qu'après Namur que Nicolas décida de s'adonner sérieusement à la vente des chansons. Il rechercha les marchés et l'on passa des heures debout sur les trottoirs à jouer des airs que Gaspard chantait en proposant les chansons aux badauds. On continua cependant à se diriger vers le sud et Nicolas ne manquait pas de conduire les garçons sur les tours, les beffrois et tous les lieux élevés d'où l'on pouvait inspecter les alentours. On put ainsi apercevoir de nombreux parcs de châteaux. Certains parurent assez extraordinaires pour qu'on prît la peine de s'informer d'une maman de génie qui s'était enfuie au début de la guerre, portant dans ses bras une petite fille blonde. Maman de génie avait-elle été simple servante dans un château? Se serait-elle sauvée pour d'autres raisons que la guerre? Pourquoi aurait-elle gagné la France au lieu de se réfugier dans l'ouest du pays? On se posait ces questions. On en discutait avec les gens des villages, les fournisseurs, les concierges des châteaux. On ne parvenait à aucun résultat, mais rien que d'agiter ces questions redonnait de l'espoir à Gaspard Fontarel. Surtout, on observait le caractère fantastique et vraiment ignoré de certains parcs, ornés d'arbres exotiques et de fleurs splendides, entourés d'ormes et de chênes. Si l'on ne découvrait pas ce lieu exceptionnel, où l'on trouvait à la fois des bouleaux, des palmiers et l'étendue d'eau pareille à la mer pour des yeux d'enfant, Gaspard était de plus en plus passionné par la variété des paysages et des domaines, autant que par les forêts et les eaux de la Meuse, d'où montaient dans le ciel les appels de trompe des péniches. Nicolas répétait :
« Nous allons au hasard, il faut lire dans tout ce que nous voyons. Je vous conterai un jour l'histoire de l'homme qui savait lire dans les yeux des ânes. »
Si j'avais pu lire dans les yeux du cheval pie, disait Gaspard, j'aurais peut-être deviné tout ce qui devait arriver.
Fin de la première face de la 6e cassette, page 155. Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel.